Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Au cours des prochaines minutes, nous vous proposons un regard complet sur les principaux événements qui ont marqué l'actualité de ce lundi 3 août 2026. À travers le reportage de nos journalistes, les témoignages recueillis sur le terrain, nous vous apportons une information rigoureuse, impartiale et vérifiée. Tour d'horizon des principaux titres. Jeune Okoste, le Congo refuse l'oubli. Le 2 août, dans un appel grave, Denis Mukwege exige justice pour les millions des Congolais emportés par les violences, les convoitises et l'impunité. La mémoire doit désormais céder la place à la justice. Payez-nous. La détresse des soignants éclate au grand jour. 3 mois d'impayés et une colère impossible à contenir. À Mongwalu, le héros de la riposte Ebola ont fait entendre leur cri de détresse. ADF, la menace persiste, la riposte s'organise. Face à l'escalade des attaques attribuées aux ADF dans l'est de la RDC, le général Alexander Edward Massangura expose les mesures mises en place pour protéger les populations civiles. L'invité de la rédaction a retrouvé en fin de journal avec Martial Papi Mukeba. Deux août, journée nationale du génocide pour de gains économiques, le génocide. Une date gravée dans la mémoire collective, une cicatrice dans l'histoire du Congo. Et aujourd'hui, une voix s'élève, celle du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Il ne parle pas seulement des mémoires, il exige des actes. Justice pour des millions de victimes. Fin des agressions contre la République démocratique du Congo. Dans une déclaration publiée samedi, Mukwege ne mâche pas ses mots. Transformer le devoir de mémoire en action, c'est l'appel qu'il lance au monde. Un cri qui résonne comme une alarme, une injonction à ne plus détourner le regard. Martial Papi Mukeba nous plonge au cœur de cette déclaration.
28 ans après les débuts de la deuxième guerre du Congo, Denis Mukwege estime que la reconnaissance du 2 août comme journée nationale du génocide ne prendra tout son sens que si elle s'accompagne des justices, des vérités et des réparations pour les victimes. Le prix Nobel de la paix 2018 affirme que les massacres, les violences sexuelles, les déplacements forcés et les pillages des ressources naturelles se poursuivent dans un climat d'impunité. Il cite notamment les tueries commises par les ADF dans les territoires de Beni et de Mambasa. Denis Mukwege appelle également à la cessation des agressions contre la RDC, à la fin du pillage de ses ressources stratégiques et au respect de la souveraineté du pays. Il renouvelle en fait son plaidoyer en faveur d'un tribunal pénal spécial pour la RDC et conclut en appelant à transformer, je cite, les minéraux des conflits en minéraux de paix, l'impunité en justice et la souffrance en espérance. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Sud Kivu ouvrira 2 août. La République se recueille à la place du monument dans la commune de Mulongwe. La journée nationale du génocide a été commémorée. Une cérémonie marquée par le silence lourd, par les hommages vibrants, par la mémoire des millions de Congolais tombés dans les conflits armés qui ensanglantent le pays depuis des décennies. Ce n'était pas seulement une commémoration, c'était un rappel. Un rappel que la mémoire n'est pas un rituel figé, mais une exigence de justice et de vérité. Éclairage signé André Katendenga Lamolomé.
Présidant la cérémonie au nom du gouverneur des provinces Jean-Jacques Pourou Sissadiki, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano a rendu un hommage aux millions de Congolais tués dans les conflits qui endeuillent l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies. Bougie à la main, les participants ont observé un moment de recueillement en mémoire des victimes. L'un des temps forts de cette commémoration a été les témoignages des survivants des récentes occupations de la ville d'Ouvira par la coalition RDF AFC M23. Devant une assistance émue, plusieurs victimes ont relaté les exactions subies, évoquant notamment des exécutions des civils, des disparitions et d'autres graves violations des droits humains. Elles ont appelé les autorités à faire toute la lumière sur ces crimes, à garantir justice aux victimes, à réparer les préjudices subis et à accélérer les retours d'une paix durable dans la province. Dans son allocution, le gouverneur intérimaire a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial en faveur de la vérité, de la justice, de la réparation et de la non-répétition des atrocités.
Hier dimanche, le Congo central s'est également joint à la commémoration du génocide à Matadi. Devant le gouvernorat, autorités et citoyens ont uni leur voix pour un même hommage, celui rendu aux victimes des conflits qui ont marqué la République démocratique du Congo. Une cérémonie qui n'était pas seulement un rituel de mémoire, mais un engagement renouvelé. Engagement pour la paix, pour la justice, pour que l'histoire ne se répète pas. Élise Kavira, pour le récit de cette commémoration qui résonne comme un serment collectif.
Si le génocide invite à se souvenir des tragédies du passé, il rappelle aussi l'urgence de mettre fin à celles qui continuent de frapper le Congolais aujourd'hui. C'est le message porté par cette jeune matadienne, Merciana Timba.
Demandons vraiment à nos autorités de nous aider à restaurer la paix, parce que nous sommes fatigués d'entendre parler de tueries et des violences de tout genre.
Nous avons besoin de la paix.
Après la cérémonie officielle, des jeunes issus de plusieurs structures citoyennes s'y sont retrouvés au rond-point gouvernorat pour réfléchir à leur rôle dans la construction de la paix. Parmi eux, Alvin Lutandila, membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement.
En tant que jeune ou ambassadeur, le message clair a été d'abord de conscientiser la jeunesse, de leur dire c'est à nous de dénoncer ce massacre qui est en train de passer dans notre pays.
Pour le gouverneur de province, cette journée est avant tout un moment de mémoire et de solidarité avec les victimes.
Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de toutes les victimes des atrocités qui ont endeuillé notre pays.
Le chef de l'exécutif provincial a rappelé que la réparation des victimes reste indissociable de la sanction des auteurs des crimes. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Nord Kivu, territoire de Rutshuru, chefferie de Bwito, 6 jours de violence, 6 jours de peur. Les bilans est lourd. Au moins 5 personnes tuées, 1 autre blessée et 2 portées disparues. Selon des sources locales, ces drames sont liés à une série d'incidents sécuritaires. Incursions d'hommes armés, embuscades contre des civils, un quotidien marqué par l'insécurité qui continue de frapper les populations. Retour sur cette flambée de violence avec Askin Zibia Tayo.
Le dernier incident remonte à dimanche soir à Kibirizi dans le groupement Mutanda. Des hommes armés non identifiés ont blessé par balle un civil à son domicile avant de prendre la fuite. La victime est soignée dans une structure sanitaire locale. La veille, 2 personnes ont été enlevées dans leur champ aux environs du village de Kilambo dans le groupement voisin de Kanyabayonga. Jusqu'à présent, leur famille reste sans nouvelles. Ces incidents surviennent quelques jours après le meurtre de 5 personnes le 28 juillet dans la même zone. Parmi les victimes figure Justin Kaiti, chef du village de Kirimon récemment nommé par la FCM23, son conducteur de moto et 2 gardes du corps tués dans une embuscade à Kasesero. Le même jour, un notable du quartier Kinyanchi a également été abattu. Selon des sources locales, certains de ces actes seraient attribués à des éléments du M23, tandis que d'autres seraient liés à des représailles menées par des présumés combattants Wazalendo. Cette situation alimente une inquiétude croissante au sein de la population de Kibirizi et ses environs.
Au Katanga, territoire de Mitwaba, localité des Kubo Mamba, après l'attaque armée de ce dimanche attribuée aux miliciens Mai Mai contre un cantonnement des FARDC, le calme est revenu. Mais le bilan provisoire reste lourd. 8 morts, plusieurs blessés, des affrontements qui n'ont duré que quelques heures, mais dont la violence a marqué les esprits. Certaines victimes ont péri dans les flammes d'un incendie, ajoutant l'horreur au drame. Retour sur cette attaque meurtrière avec Paulin Munanga.
Les miliciens Mai Mai ont ouvert le feu avant d'incendier les habitations dans les cantonnements militaires de la localité de Kubo Mamba, rapporte des sources locales. Parmi les victimes figurent 2 militaires des FARDC et 6 civils, dont une épouse d'un militaire et 5 enfants qui ont péri dans les flammes. Il y a 10 de blessés. Des renforts de militaires ont été immédiatement dépêchés depuis Mitwaba Centre, qui est situé à une centaine de kilomètres de la localité de Kubo, pour sécuriser la zone et traquer les assaillants qui se sont retirés après avoir commis leur forfait. Aucune réaction pour le moment des autorités de la province. Des incidents similaires ont été signalés au mois de mars de cette année. Une incursion armée de la station Lusinga, quartier général du parc national de Lupemba dans le territoire de Mitwaba, perpétrée par un groupe d'assaillants non identifiés. Cette attaque armée avait fait des morts, des blessés, plusieurs infrastructures du parc avaient été détruites et les dépôts d'armes à feu et des munitions pillés. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Justice en main. marche. Dimanche, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, a annoncé l'interpellation à Brazzaville de Moukena Mwepo Beni. Cet homme était recherché dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Vali Amissi, vice-président du club Nouvelle Vie Bomoko FC et entrepreneur congolais établi en Afrique du Sud. Son corps avait été découvert le 10 avril dernier dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Pour le ministre, il s'agit d'une avancée majeure rendue possible grâce à la coopération judiciaire entre la RDC et la République du Congo. Le transfert du suspect vers Kinshasa est en cours dans le respect de la présomption d'innocence. Le point sur cette affaire avec Alain Hirunga.
Au fil des investigations, les enquêteurs ont abandonné la thèse initiale d'un enlèvement perpétré par une bande armée. Des images de vidéosurveillance ont notamment permis d'identifier un proche de la victime parmi les personnes aperçues à ses côtés peu avant sa mort. Ces images montraient la victime entrant dans une chambre en compagnie d'un individu. Ce dernier a été aperçu ressortant seul de la pièce après avoir changé de vêtements et tenté de dissimuler une caméra de surveillance. Une autre séquence montrer le suspect manifestant une hésitation dans un ascenseur à proximité de ce qui semblait être le corps de la victime. La dépouille d'Amissi Issa Vali a finalement été retrouvée quelques heures plus tard, le 10 avril 2026, abandonnée derrière un établissement hôtelier dans le secteur du Beach Ngobila. Par ailleurs, une autre vidéo présentée comme celle de l'interrogatoire du suspect circule également largement sur les réseaux sociaux. On y voit un homme qui déclare avoir reçu une arme dont il ne connaît pas la marque. Quant à l'identité des commanditaires, il a tout simplement répondu qu'il s'agissait des personnalités haut placées.
Ituri, territoire de Djougou, hôpital général de référence de Mongwalu. Ce lundi, le calme est revenu après des échauffourées qui avaient secoué l'établissement. À l'origine, une manifestation du personnel engagé dans la riposte contre Ebola. 3 mois d'arriéré de salaire, c'est la revendication qui a mis le feu aux poudres. Une colère qui s'est exprimée dans le couloir de l'hôpital avant de céder la place à l'apaisement. Retour sur cette mobilisation du personnel soignant avec Marcel Kizabiamungu.
Selon plusieurs sources locales, des infirmiers, hygiénistes et autres agents de santé affectés à la riposte Ebola ont investi tôt ce lundi matin l'entrée principale de l'hôpital. Ils dénoncent le non-paiement de leur rémunération des mois de mai, juin et juillet. Au cours de leur mouvement de protestation, les manifestants ont brûlé des pneus et exhibé des calicots sur lesquels on pouvait lire « Nous exigeons le paiement de nos salaires des mois de mai, juin et juillet ». Pour contenir la manifestation et prévenir d'éventuels débordements, la police a fait usage des gaz lacrymogènes et procédé à quelques tirs de sommation. Réagissant à ces incidents, le député provincial Élie de Mongwalu, Jean-Pierre Bikilisende, appelle les responsables de la riposte à prendre en considération les sacrifices consentis par ces agents de santé.
Je demande à la coordination de riposte d'être en communication permanente avec les agents de la riposte. Ces gens-là sont en train de rendre un service très louable à la communauté.
À l'heure qu'il est, aucune réaction officielle des responsables de la riposte Ebola n'a encore été enregistrée. Pour rappel, Mongwalu demeure l'un des principaux foyers de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Kwilu Grand Bandundu, le chef coutumier appelé à prendre place au cœur du développement. Réunis dimanche à Bandunduville, ils ont été sensibilisés aux enjeux d'un projet ambitieux. Le projet combiné agro-industriel de Bouzala, financé par le Centre interafricain de développement, le CIAD. Objectif affiché, renforcer leur adhésion et leur implication dans une initiative qui veut transformer la production agricole et stimuler l'économie régionale. Un projet qui se veut moteur de croissance, mais aussi levier de justice sociale. Esther Dalafina, pour le récit de ce reportage signé Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Cette rencontre était consacrée à la présentation du projet combiné agro-industriel de Bouzala, une initiative portée par son directeur Emmanuel Koutoula avec l'appui du révérend père Adrien Gesse du centre Tobwa. Emmanuel Koutoula est venu expliquer aux autorités coutumières les objectifs et les retombées attendues de ce projet. Il revient sur l'essence de sa mission.
Ensemble, nos architectes, nos ingénieurs, les Chinois, ils vont faire donc ce plan général d'implantation et le faire par satellite pour que ce soit bien clair. À la fin de cette étude, ils vont nous faire une maquette.
Selon ces initiateurs, ce projet pourrait générer plus de 10 000 emplois directs et indirects dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, la construction navale, la transformation agroalimentaire, la logistique et les services. Les chefs coutumiers présents à cette rencontre ont salué l'initiative. Ils ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner tout projet susceptible de favoriser le développement économique et social de leur communauté, tout en veillant au respect des intérêts des populations locales.
Actualité internationale. Au Mali, la justice a tranché. L'activiste pro-junte Amadou Ben Diarra, plus connu sous le nom de Ben Le Cerveau, a été condamné ce lundi à 5 ans de prison, dont 4 années fermes et une avec sursis. Détenu depuis septembre 2023, le responsable des mouvements a été reconnu coupable de menaces et injures commises par le biais d'un système d'information, selon le verdict rendu à Bamako. Figure autrefois en vue du camp favorable aux militaires au pouvoir, Amadou Ben Diarra s'était illustré par ses prises de position virulentes contre la présence française et la mission des Nations Unies au Mali. Mais ses relations avec les autorités se sont progressivement détériorées après plusieurs déclarations publiques appelant les dirigeants militaires à respecter le calendrier du retour à l'ordre constitutionnel.
L'invité.
Nord Kivu, Ituri, les attaques attribuées aux rebelles ADF se multiplient, frappant les territoires de Beni et de Lubero, sémant la peur et l'insécurité. Face à cette recrudescence, une question s'impose. Comment la brigade d'intervention de la MONUSCO ajuste-t-elle son dispositif pour protéger les populations civiles? Élément de réponse avec le général Alexander Edwards Massangura, commandant de cette brigade, qui s'entretient avec Martial Papimukeba.
Général Alexander Edwards Massangura, bonjour.
Bonjour.
On observe une recrudescence des attaques attribuées aux ADF dans les territoires de Beni, Lubero et Anituri. Comment la brigade d'intervention de la MONUSCO adapte-t-elle son dispositif afin de mieux protéger les populations civiles face à cette évolution de la menace?
Étant donné la recrudescence des attaques des groupes armés à Beni, Lubero et Nituri, la brigade d'intervention de la MONUSCO s'adapte en renforçant sa posture opérationnelle de manière proactive et mobile. Il renforce les opérations conjointes avec les FRDC, surtout avec la réduction des effectifs. Ils utilisent la présence par la projection. Ils utilisent également des patrouilles longue distance, une présence avec des bases temporaires et des bases mobiles opérationnelles. Également, ils utilisent beaucoup de systèmes de renseignement et d'alerte précoce pour intervenir avant que la menace nous fasse des dégâts dans toute la zone de responsabilité de la FIB. La FIB également accorde une priorité aux zones à haut risque dans lesquelles il intervient le plus rapidement possible pour protéger les vies. Et donc, avec cette posture opérationnelle, la FIB est en mesure de réagir dans les plus brefs délais pour pousser son mandat qui est la protection des civils.
La protection des civils repose souvent sur une coordination entre la MONUSCO, les FRDC, les autorités locales et les communautés. Comment cette coordination fonctionne-t-elle actuellement et quels résultats concrets permettent-elles d'obtenir sur le terrain?
La protection des civils est une responsabilité partagée. La coordination fonctionne à travers la planification et la conduite d'opérations conjointes avec les FRDC au niveau tactique et au niveau opérationnel, telles que les opérations comme Umojiwa et Nyundotu. Des réunions régulières sont conduites en coordination avec les civils et les militaires, avec les administrations territoriales locales, les chefs locaux et la société de manière générale. L'assistance aussi des agents de liaison sont également utilisées pour faciliter la communication entre les différents acteurs. Les résultats concrets sur le terrain sont donc la dissuasion des groupes armés, le soutien des FRDC, les forces démocratiques de la République démocratique du Congo, pour la sécurisation des zones menacées. Et ceci, ça peut se voir à Sayo, à Mambasa, avec le déploiement des troupes de la FIB. Ce partenariat permet donc une réponse rapide pour prévenir les attaques contre les populations.
Au-delà des interventions militaires, quelles sont les principales mesures préventives mises en œuvre par la brigade d'intervention pour réduire les risques auxquels les populations sont exposées, notamment dans les zones les plus vulnérables?
While our primary mandate is protection of civilians,
bien que notre mandat principal soit la protection des civils, la FIB soutient également la stabilité par la coopération civilo-militaire et des mesures de prévention. Des exemples d'activités civilo-militaires sont les projets à impact rapide qui permettent aux populations d'être secourues et soutenues par la FIB. Ensuite, des activités d'engagement communautaire sont menées régulièrement. La FIB soutient également les FARDC et la police nationale à travers des formations. Toutes ces activités visent à restaurer la confiance et à créer des conditions où les civils peuvent vivre avec plus de dignité et de sécurité. La prévention est fondamentale. Elle est au cœur de notre travail. Les principales mesures sont donc des patrouilles préventives. Nous sommes présents de façon proactive dans toutes les zones à risque.
Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants des zones affectées concernant les rôles de la brigade d'intervention et la manière dont les communautés peuvent contribuer aux efforts de protection des civils?
The Force Intervention Brigade is here to protect.
La brigade d'intervention de la force de la MONUSCO est là pour protéger les populations civiles. Nous ne pouvons pas faire ça tout seul. Les communautés sont notre meilleur partenaire. J'encourage tout le monde à partager en temps réel toutes les informations sur les menaces pour permettre une réaction rapide de la MONUSCO et des FARDC. Éviter toute collaboration avec les groupes armés et rejeter la violence.
Reject all the forms of violence that can be posed by the illegal armed groups.
Général Alexander Edouard Massangoura, merci.
Merci beaucoup.
C'était le général Alexander Edouard Massangoura que vous venez d'entendre répondre aux questions de Marcel Papimoukeba ou à Moukeba sur les défis sécuritaires dans l'Est de la RDC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Au micro, Gisèle Cage, à la mise en onde, Pierre Diassinois, superviseur Alain Rong. Retrouvez à tout moment nos informations, analyses, reportages et magazines sur notre site internet www.radiocapi.net et ainsi que sur l'ensemble de nos plateformes numérique. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions sincèrement de votre fidélité et de votre confiance. Et où que vous soyez, restez à l'écoute de Radio Okapi, votre radio de référence. À bientôt pour un prochain rendez-vous avec l'actualité.